Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2011 et c'est l'épisode numéro 72. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce que, en fait, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je n'étais pas censé faire d'épisode numéro 72, ou en tout cas pas cette semaine. J'étais en voyage aux États-Unis et je n'avais donc pas le temps de le faire au moment où nous l'enregistrons généralement. J'avais donc décidé de ne pas faire d'épisode, je me suis dit, c'est pas grave, en rater un, c'est pas la fin du monde. Malheureusement, je suis tellement complètement obsessif, compulsif, tout ce que vous voulez, je ne pouvais pas me dire mais que ça serait le premier épisode que j'allais rater, et donc je me suis senti obligé d'en faire un quand même. Ça ne sera pas encore cette fois-ci qu'on va rater un rendez-vous tech. Je crois qu'on n'en a raté aucun depuis le début de la création de l'émission. Par contre, ça va être un épisode un petit peu spécial, très très court, je pense une dizaine, quinzaine de minutes maximum, et je suis tout seul. Certains d'entre vous ont déjà entendu un épisode où j'étais tout seul, ils n'ont pas forcément apprécié. Je pense que je vais pouvoir remédier au problème que ça avait posé à ce moment-là, notamment la lenteur et la longueur de l'émission. Là, je vais faire beaucoup plus court et beaucoup plus super dynamique. Et je vais juste passer en revue très rapidement les quelques informations, parce qu'elles n'étaient pas très nombreuses, qui sont sorties depuis, on va dire, ces 15 derniers jours. Et je vais me lancer immédiatement en vous disant que l'essentiel des informations ne seront pas couvertes dans cette émission, puisque il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées dans l'univers des mobiles. Après l'annonce de l'iPhone 4S, il y a eu pas mal d'informations au niveau d'Android, avec Android 4.0, Ice Cream Sandwich, et le nouveau téléphone officiel Google, le Nexus Prime, qui ont été annoncés donc il y a, je sais pas, une dizaine de jours. Et il y a aussi eu l'annonce du nouveau Nokia, le N800 si je ne m'abuse, qui est le premier Nokia Windows Phone, qui est assez joli, assez bien fait. Et toutes ces informations-là sur les téléphones mobiles, ainsi que des informations sur BlackBerry, peut-être un petit peu moins reluisantes, ont été couvertes dans un autre des podcasts de NoWatch. C'est Upload, que vous connaissez bien puisque on en parle souvent. Et donc dans Upload, dans les, on va dire, 2-3 derniers épisodes et quelques épisodes live et quelques enregistrements spéciaux, l'équipe d'Upload a couvert tous ces événements en long, en large, en travers, en diagonale et en transversale. J'ai participé à certaines émissions et d'autres ont été menées de main de maître par Cédric Bonnet et Jérôme Kainborg. Notamment dans le tout dernier, ils font un petit passage en revue à la fois du Nokia Windows Phone et de tous les téléphones enfin les OS en tout cas qui sont en vogue aujourd'hui, c'est-à-dire Android, Windows et iPhone bien sûr. Et ils vous disent en gros à qui pourrait correspondre chacun de ces systèmes. Donc tout ça a été largement couvert dans ces émissions. Je vais pas trop en parler. D'ailleurs, je vais pas du tout en parler aujourd'hui. Je vais parler un petit peu plus de la vraie technologie, on va dire, de choses qui n'ont pas à voir avec ces petites histoires de mobilité tout à fait limitées, qui n'ont pas à voir avec de vrais ordinateurs. Bon, je vais donc commencer avec mes vraies informations, entre guillemets, avec Google Music. Google Music, vous savez, c'est ce service qui vous permet de d'uploader toute votre musique chez Google et de la réécouter où que vous soyez, autant que vous voulez, en streaming. Eh ben, au moment de la sortie de ce service, beaucoup de gens ont remarqué, avec raison, qu'il était sans doute un petit peu moins intéressant que d'autres parce qu'il n'était pas accompagné d'un magasin en ligne. Eh ben, tout ça risque de changer très bientôt, peut-être même ce trimestre, donc avant Noël, avec le lancement d'un Music Store Google. Ils seraient en passe de conclure leurs accords avec les labels, enfin les grands studios de musique. Ils seraient en passe de conclure des accords et ça pourrait arriver très très vite. Donc si vous êtes fan de Google et si vous avez un Android et que vous êtes plutôt vers les... Voilà, j'ai dit que j'allais pas parler des téléphones mobiles et on y revient forcément. Si vous êtes fan d'Android et que vous utilisez Google Music, eh ben peut-être que bientôt vous pourrez avoir accès au magasin en ligne, mais il semblerait qu'il ait quelque chose en plus. Alors, quelque chose en plus, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais quelque chose de différent des autres magasins de musique. Est-ce que c'est une question de forfait? Ça serait pas vraiment différent parce que Spotify et d'autres le font déjà. Est-ce qu'il y a une histoire de... Enfin, on ne sait pas. Mais Google nous promet, enfin à demi-mot, quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on connaît jusqu'ici. Donc, on va écouter ça avec attention. En tout cas, ce qui pourrait être très, très intéressant... Et là, on spécule hein, complètement, il n'y a rien de confirmé, mais ça pourrait être des liens depuis YouTube, parce que comme vous le savez, on utilise énormément YouTube pour écouter de la musique, pas simplement pour les vidéos, mais simplement pour écouter de la musique, et il serait pas impossible qu'il y ait des rapports commerciaux intéressants entre YouTube et Google Music Store, c'est-à-dire qu'on découvre un morceau intéressant sur YouTube, on clique sur un bouton, et hop, on peut l'acheter directement sur le magasin de Google. Donc, bon, ça pourrait être un moyen de lier toutes leurs propriétés, assez ingénieux, mais reste à voir si ça va effectivement arriver. Autre sujet qui nous a occupé ces derniers temps, toujours chez Google, c'est la réduction drastique du nombre de services qu'ils offrent. Alors, il y avait beaucoup de services assez expérimentaux qu'ils continuaient à utiliser depuis un long moment, des choses comme la recherche dans le code ou Jaiku ou iGoogle, les features sociales de iGoogle que certains d'entre vous ne connaissent, la majorité d'entre vous ne connaît peut-être pas. Mais il y a, alors tous ces services ont été vont être arrêtés début janvier. Et il y a un autre service qui a fait beaucoup de buzz, justement, au moment de sa sortie. C'est un jeu de mots, enfin même pas un jeu de mots en fait, une plaisanterie de niveau assez bas, puisque je vous parle bien sûr du service Google Buzz, qui a fait un flop retentissant au moment de sa sortie. Et j'aimerais préciser à ceux qui m'ont envoyé des messages au moment où j'ai relayé cette annonce, que je n'ai jamais cru à Google Buzz. J'ai toujours trouvé qu'il était assez mal foutu et assez encombrant et très redondant par rapport aux services existants, contrairement à Google Wave, que j'aimais bien, mais bon, qui n'a pas réussi à prendre sa place, et Google Plus, qui là par contre a un succès beaucoup plus net. Google Buzz, personne n'y a vraiment jamais cru, et bon, Google là se réveille et va complètement désactiver Google Buzz dans les semaines et les mois qui viennent. Ça fait partie d'une politique générale de Google qui veut se reconcentrer sur quelques produits qui marchent plutôt que de s'éparpiller un petit peu partout. Je pense que c'est plutôt une bonne manière de faire les choses. C'est certainement l'impulsion de Larry Page, le nouveau président de Google, qui est l'un des fondateurs aussi, on le sait. Et bon, je pense que ça sera une bonne chose à l'avenir, même si certains de ces services, il y a certaines personnes qui les utilisent beaucoup, mais en général, c'est pas forcément la peine de garder une armada de plusieurs centaines de services inutilisés. Bon, peut-être pas plusieurs centaines, mais plusieurs douzaines. Et donc, ils se débarrassent enfin de ce service-là. Il faut noter que c'est un truc qu'on pouvait attendre, puisque ça fait aussi redondant avec Google Plus, leur nouveau réseau social qui fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, Google Buzz nous tire son chapeau et se retirera dans les semaines ou les mois à venir. Je crois qu'on parle de début janvier. Personnellement, je ne pleurerai pas sa disparition. Autre nouvelle dont en fait on vous a déjà parlé régulièrement, mais qui était un petit peu en sous-marin, c'est Ultraviolet, ou Ultraviolet en anglais. Ultraviolet, c'est ce nouveau service de DRM qui est soutenu par les grandes majors du cinéma, qui veulent en fait un système unifié pour vendre des morceaux, enfin pas des morceaux, mais des biens digitaux en ligne, des films et des séries télé, par exemple, tout ce qui est vidéo. Et l'idée derrière ce service, c'est que une fois que vous payez votre film une fois, et ben vous y avez accès à peu près partout. Ce qui est intéressant aujourd'hui, le dernier développement, c'est que aujourd'hui tout le monde semble être adossé à ce, enfin à être adossé, être derrière ce service. Donc tout le monde le soutient, tout le monde sera compatible, excepté bien sûr Apple et Disney et Amazon. Alors Apple et Disney et Amazon, ça fait quand même énorme, surtout quand on sait que Amazon avec sa tablette Kindle Fire se lance à corps perdu dans le contenu. Mais les choses avancent, Ultraviolet avance de plus en plus, donc il reste que ces deux-là, mais il n'est pas impossible qu'ils trouvent un accord, en tout cas avec Apple, et je ne doute pas que ça soit le cas avec Amazon aussi, peut-être pas pour une compatibilité totale, mais peut-être pour que Apple offre les morceaux, enfin les morceaux, je ne sais pas pourquoi je dis les morceaux, offre les vidéos compatible Ultraviolet en parallèle de leur système à eux. Ça serait, c'est pas totalement impossible, ça serait un petit peu étrange d'avoir deux formats différents en même temps, mais du coup Apple pourrait dire bah nous on a Ultraviolet et notre système à nous, et les autres n'auraient que Ultraviolet en quelque sorte. Bon, moi j'avoue que c'est un petit peu difficile d'y voir encore clair à ce niveau-là, parce que les premiers morceaux, si je ne m'abuse, c'est ça en fait le truc important, c'est que Horrible Bosses, Comment tuer son boss, qui est un film qui est sorti il y a pas longtemps, il y a un mois je crois en France, et le premier film Ultraviolet, c'est-à-dire que si vous achetez un DVD ou un Blu-ray, vous aurez un code qui vous permet de streamer ou de télécharger le film sur d'autres appareils, et notamment l'iPad ou les Android phone, les téléphones Android ou les laptops. Donc ces appareils sont plus ou moins déjà compatibles avec Ultraviolet, mais simplement pas par le biais direct de Apple. Vous avez soit une application différente, soit vous allez sur le site web, je ne sais pas très bien comment ça marche. Évidemment, on n'y a pas accès ici encore en France, j'imagine. Mais bon, tout ça pour dire que les choses évoluent vachement dans le domaine de la vidéo en ligne, et que même si, d'une manière générale, on peut avoir une réaction épidermique quand on vous dit DRM, DRM, c'est pas forcément mauvais. Et en l'occurrence, comme on l'avait déjà dit, cette approche me semble être plutôt la bonne. C'est-à-dire que vous achetez votre film, et ensuite, vous avez un code qui vous permet d'y avoir accès, quel que soit le format ou l'appareil d'où vous voulez y avoir accès. Donc, s'ils réussissent à mettre ça, à diffuser ça de manière suffisamment large, je pense que le résultat sera plutôt satisfaisant. Donc voilà pour les évolutions d'Ultraviolet et le premier film effectivement disponible avec Ultraviolet qui arrive. Autre nouvelle, on revient vers Google. Il y a des rumeurs persistantes qui diraient que Google veut racheter Yahoo. On se souvient que Microsoft avait voulu les racheter, je crois que c'était en 2008. Et d'ailleurs, ils ont lancé un commentaire assez amusant en disant que ils avaient eu bien de la chance que ça ne se fasse pas, parce qu'aujourd'hui, Yahoo est dans une situation véritablement, je vais pas dire embarrassante, mais en tout cas, plus difficile qu'il ne l'était à l'époque. Là où c'est surprenant que Google veuille racheter Yahoo, c'est que on se souvient de Yahoo plutôt comme d'un moteur de recherche. Et si Google rachète Yahoo, il y aurait sans doute un problème de dominance du marché trop grande, enfin de position dominante. Et ce dont on ne se souvient pas vraiment, en fait, c'est que Yahoo s'est débarrassé du marché de la recherche. Et en fait, aujourd'hui, c'est Microsoft qui opère toutes les recherches de Yahoo. Donc, Google ne voudrait certainement pas racheter le business recherche de Yahoo, on pense pas. Mais par contre, Yahoo a beaucoup de contenu. Et Google, depuis quelque temps, est en train de travailler très très dur à rendre YouTube beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux fourni. Et il serait pas du tout impossible que les contenus vidéo de Yahoo servent à étoffer l'offre de Google sur YouTube. Donc c'est peut-être cette partie du business et peut-être d'autres en lesquelles Google serait intéressé. Évidemment, il est tout à fait possible que la chose ne soit qu'une rumeur sans fondement et que Google ne recherche pas du tout à racheter Yahoo. Mais en tout cas, la rumeur est persistante, donc il doit y avoir... Enfin, d'après tout ce que j'ai lu, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose derrière quand même. Là, c'est un des cas où... Enfin, souvent, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu et au final, il n'y avait pas du tout de feu. Là, je dirais, il n'y a pas de fumée.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mais sans feu, c'est peut-être quand même possible. Dernière nouvelle, non, il y en a encore deux petites. Sony qui voudrait, même pas qui voudrait, qui a racheté la part de Ericsson dans Sony Ericsson. En fait, vous vous souvenez certainement que, je crois que c'était en 2000, Sony et Ericsson s'étaient alliés pour former une société de, enfin, un constructeur de téléphones beaucoup plus puissant dans le monde des téléphones mobiles. Et aujourd'hui, Sony estime qu'ils ont besoin de plus de contrôle sur les appareils mobiles qu'ils produisent et ils voulaient vraiment avoir une marque unique qui soit plus autonome et à laquelle pour laquelle il n'est pas besoin de se référer à Ericsson constamment pour faire telle ou telle chose. Donc, ils ont racheté leur part. Donc, Sony Ericsson devient finalement Sony téléphone mobile. Ils ont annoncé que ça va leur permettre d'être plus efficaces dans leur stratégie des quatre écrans. Ils parlent des télévisions, des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones mobiles. Donc c'est le but d'avoir, enfin c'est le but, la raison pour laquelle ils ont racheté la division téléphone mobile. Enfin, ils ont racheté leur part dans cette division téléphone mobile de Sony Ericsson. Évidemment, on sait que Sony est très présent sur les télévisions, qu'ils ont une marque très très forte, notamment avec Bravia. Les laptops, les Vaio sont très très forts. Les tablettes, ils commencent à s'y intéresser avec les S1 et S2. J'ai essayé d'ailleurs, c'est pas trop mal, la S1, S2, c'est pas trop mal, mais bon, c'est une tablette sous Android un petit peu classique. Je pense pas que ça soit encore un appareil complètement convaincant. Et bien sûr, donc, ce quatrième écran, les téléphones mobiles, vers lesquels ils vont pouvoir s'orienter avec beaucoup plus de force, d'engagement et de précision. La question que ça pose, c'est que devient Ericsson dans cette histoire, puisque Ericsson, bien sûr, était connu pour ses téléphones spécifiquement. Je sais pas trop. Il faudra investiguer la chose un petit peu plus. J'imagine que, comme d'autres sociétés de ce domaine, ils ont un business peut-être un petit peu plus un petit peu plus d'infrastructure. Je sais pas du tout. Hein. Là, je n'ai pas recherché très sérieusement la chose, mais j'imagine des choses comme des routeurs ou ce genre d'appareils. Si c'est pas le cas, je sais pas trop ce qu'ils vont faire chez Ericsson. Alors, si vous le savez, vous pouvez venir sur le blog sur nowatch.net et me le dire dans les commentaires. Ça serait très gentil de votre part et vous m'informerez autant que vous informerez les auditeurs qui viendront très certainement y jeter un coup d'œil aussi. Avant-dernière news, la démo incroyable, c'est plus pour l'amusement là, la démo incroyable qu'a fait Photoshop il y a environ 2 semaines de défloutage. Alors je mettrai le lien vers l'article qu'a fait Corben, il était un petit peu partout sur la toile hein, cette vidéo, mais Corben a fait un article marrant sur la chose avec la vidéo de défloutage. Alors qu'est-ce que ça veut dire défloutage ? Ça veut dire que, bien sûr, Adobe travaille sur les opérations mathématiques sur les photos depuis très longtemps et Photoshop a déjà des filtres absolument invraisemblables. Là, c'est une sorte de première preview de ce qu'ils vont faire pour le prochain Photoshop. C'est vraiment un filtre de défloutage hallucinant. C'est-à-dire que vous prenez une photo complètement floue et avec des algorithmes très poussés, ils réussissent à complètement déflouter l'image, mais à un point qui est presque de la science-fiction, que ça soit pour des bâtiments ou des personnes ou même du texte, on n'imaginait pas qu'il soit possible de recomposer véritablement une image, presque de deviner avec justesse ce qui se cache derrière les parties floues de cette manière. C'est difficile de l'expliquer sans que vous voyez la vidéo. Je vous invite à aller la regarder plutôt que d'essayer d'imaginer. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on arrive là vraiment dans un domaine de science-fiction. Je sais pas si vous souvenez de tous ces films ou de toutes ces séries dont on se moque régulièrement d'ailleurs, où il y a un agent du FBI qui regarde une photo genre prise d'un satellite à 60 km complètement flou, et il dit, ils sont devant l'ordinateur avec leur geek de service et ils disent oui, là améliore la qualité, et là attends, zoom sur la réflexion du mec dans la poignée en bronze du machin, et là on peut voir si on améliore et si on défloute vraiment de qui il s'agissait. Et ben là, on y est presque, quoi. C'est incroyable, la démo est bluffante. Donc je vous invite à aller la regarder, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Dernière news, donc on y arrive. Une nouvelle, on était dans la rubrique nécrologique ces derniers temps avec le décès malheureux de Steve Jobs. Et certains m'ont dit, m'ont envoyé cette nouvelle en se demandant si on allait en parler dans l'émission. Enfin, évidemment, c'est pas un concours, hein, qui est plus célèbre ou qui est plus important. Mais bien sûr que là, je voulais en parler. Peut-être que je l'aurais pas fait, je vous avoue, s'il n'y avait pas eu le décès de Steve Jobs qui avait occupé le cycle des news ces derniers temps. Parce que généralement, il y a plein de gens qui sont fondateurs de l'informatique telle qu'on la connaît, qui malheureusement décède, et souvent on n'en parle pas, mais là, que ce soit parce qu'il y a eu le décès de Steve Jobs ou véritablement parce qu'on l'aurait fait de toute façon, je saurais pas le dire, mais là, je veux en parler, c'est Dennis Ritchie qui est malheureusement décédé. Et ça me touche peut-être un petit peu plus que ça ne l'aurait fait, enfin que d'autres décès ne le font, parce que c'est l'un des fondateurs. Alors il a été une figure importante dans le développement de Unix, qui est le système d'exploitation qui a ensuite donné énormément de choses, notamment Linux, qui était un petit peu copié sur Unix. Enfin bref, c'était un système d'exploitation évidemment hyper important. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller rechercher sur Google et sur Wikipédia pour avoir tout ça. Mais là où ça me touche un petit peu plus, c'est qu'il a été le designer et le développeur du programme de langage langage de programmation C. Et pour ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en informatique, pour ceux qui s'y connaissent en programmation, enfin moi en l'occurrence, vous le savez certainement pas, mais après mon bac, j'ai commencé ma carrière universitaire en tant que programmeur. Moi j'ai un diplôme, je m'en souviens plus très bien parce que ça fait très longtemps, mais j'ai un diplôme d'analyse programmeur, donc j'ai fait de la programmation. Et quand on connaît un tout petit peu la programmation, on sait très bien ce que ça veut dire, ce que veut dire le C et la révolution monumentale que ça a été dans le domaine de la programmation. C'est-à-dire que avant il y avait des langages complètement obtus et impossibles à comprendre. Enfin, vous vous souviendrez très bien si vous êtes programmeur un petit peu âgé de choses comme le COBOL ou le, enfin ce genre de choses ou même le langage machine. Les gens qui programmaient en assembleur, bon, c'était encore autre chose, mais le C a véritablement changé complètement la philosophie de la programmation et c'est un langage pour lequel j'ai encore aujourd'hui une c'est bizarre de dire ça pour un langage de programmation, mais j'ai un certain attachement émotionnel. Alors le C de base, évidemment, c'était aujourd'hui, si on le regarde, c'est un petit peu basique, primitif. Il y a eu des choses comme le C++, enfin la programmation orientée objet ou le C Sharp, etc. Toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus pratiques à utiliser. Mais à cette époque-là. C'était quelque chose de véritablement différent et véritablement innovant. Donc, je voulais en parler et la plupart d'entre vous, ça vous rappellera rien du tout parce que soit vous êtes pas programmeur, soit vous êtes pas assez âgé. Mais je sais que ceux d'entre vous qui sont un petit peu codeurs, ils penseront avec une petite pointe d'émotion. Donc, je voulais en tout cas évoquer la chose. Voilà pour le décès de Dennis Ritchie, qui est mort il y a une petite semaine. Bon bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Évidemment, ça, on est à 24 minutes, je pensais en faire 10. Comme quoi, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va tout de même écouter la statosphère de notre camarade Guillaume, qui nous parle aujourd'hui de Recorded Future, qui est un moteur de recherche assez intéressant. Donc je vous laisse écouter ça.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moteur de recherche d'un genre différent. Alors que les moteurs de recherche traditionnels s'emploient à indexer et à trier toutes les pages internet en fonction de leur pertinence ou du nombre de liens, Recorded Future est un moteur de recherche qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, les verbes conjugués au futur et toutes les notions de temporalité comme une date, une année ou une durée. Recorded Future repose sur deux concepts très à la mode en ce moment, l'analyse sémantique et le principe d'intelligence collective. Concrètement, il permet par exemple de réaliser une veille inversée puisqu'il est capable de vous indiquer les sujets qu'il sera intéressant de suivre dans un mois, un an ou une décennie. Toutes ces données agrégées permettent ainsi d'observer des tendances du passé, mais aussi du futur. De l'acquisition de Skype par Microsoft à l'émergence des conflits dans le monde, en passant par la date de la dernière keynote d'Apple, Recorded Future se montre souvent capable de percevoir les signes avant-coureurs d'un grand événement. Alors que les plus enthousiastes y voient un formidable outil de modèle prédictif, d'autres n'y voient qu'un mouchard dangereux et nuisible. Le fait que Google et la CIA figurent parmi ses investisseurs confirme en tout cas le sérieux de Recorded Future. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci Guillaume. Et si vous voulez aller voir de quoi il parle, vous pouvez bien sûr aller sur le blog de l'émission pour avoir le lien dont il, qu'il a évoqué dans son petit segment sur la Statosphere. Eh bien écoutez, donc comme je le disais, on arrive à la fin de notre émission. Avant de nous quitter, je voudrais dire un grand merci aux camarades qui mettent des liens sur le Reddit de l'émission. C'est reddit.com/r/rdvtech. Bon, le lien est sur le blog de l'émission, bien sûr. Merci particulier parce que je m'en suis particulièrement. D'accord. Servi cette fois-ci, c'était très utile pour moi puisque j'avais pas forcément eu le temps de suivre tout ce qui s'est passé. Bon, c'est pas vrai, j'avais tout suivi quand même parce que je suis complètement obsédé. Mais en tout cas, c'était un très bon résumé. Et si vous, il y a certains sujets que j'ai pas évoqués, vous pouvez aller voir sur le Reddit, voter haut ou bas pour donner de l'importance ou en enlever aux différents sujets qui sont proposés, ou alors en proposer vous-même, bien sûr. C'est toujours hyper utile. Et je voudrais remercier N Février, Tinus, Vivian, notre camarade de No Watch qui a aussi contribué, et tous les autres, Willnock, enfin tous ceux qui participent, d'avoir proposé des sujets ou d'avoir voté sur le Reddit. Je vous invite également à aller sur la boutique No Watch, qui est évidemment notre sponsor, hein, vous le connaissez, on vous en parle presque à toutes les émissions, d'ailleurs non, à toutes les émissions. Et sur la boutique No Watch, en fait, il y a le Scuds Collector Metal Non, pardon, je l'ai pas bien dit. Metal, voilà, qui est en vente aujourd'hui parce que, comme vous le savez peut-être, l'émission Scuds s'arrête malheureusement. Il y a un dernier épisode qui a été posté il y a quelques jours pour expliquer les raisons de l'arrêt et dire au revoir. Et donc il y a le Scuds Collector Metal pour hommes et pour femmes, le t-shirt qui est disponible. Donc si vous voulez l'acquérir, vous pouvez aller sur la boutique NoWatch qui est disponible depuis le site nowatch.net évidemment. Et tant que vous êtes sur le site nowatch.net, vous pouvez aller découvrir d'autres émissions super sympathiques, comme au hasard l'émission, laquelle je vais prendre, Slap, qui est une nouvelle émission, ils en sont à leur cinquième épisode, une émission qui vous parle de l'actu des séries en 10-15 minutes et en vidéo. C'est animé par l'équipe de Season 1 et c'est un super bon résumé de tout ce qui se passe dans l'actu des séries. C'est toutes les semaines et c'est une petite émission dynamique et sympathique que je vous invite à découvrir. Pour ma part, vous pouvez me suivre. Bon, tous les liens sont sur patrickbeja.com, vous le savez. Enfin, même pas la peine d'aller sur patrickbeja.com. Tous les liens sont sur l'article de l'épisode. Vous avez en dessous la liste des personnes qui ont contribué à l'émission avec tous les liens directement là-bas. Donc, vous pouvez aller sur le blog nowatch.net pour toutes ces choses différentes. Franchement, je me demande pourquoi vous vous priveriez de tout ça. Il n'y a pas de raison et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et sur nowatch.net, on se fait du bien. Je pense que c'est un excellent moyen de conclure l'épisode. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à dans une dizaine de jours, cette fois-ci, pour un nouvel épisode beaucoup plus complet et beaucoup plus classique. Bises à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.